à toutes et à tous, curieuses et curieux, amateurs de calembours, de contrepétries et de sons décalés. Meup, c'en est un. Une contrepétrie. Bonjour et bienvenue, vous écoutez L'Onde Curieuse sur Fréquence 7, bonne pioche. Aujourd'hui, on jouxte le bon mot. Oui, on joue à l'occasion du 4e salon du livre Jeunesse de Jaujac qui aura lieu les 23 et 24 mai, c'est-à-dire demain et samedi, sur le thème « Jouer ». On écrit, on lit, on joue, on dessine dans un même mouvement, celui qui consiste à décrire, imaginer et faire partie du monde. On joue avec les mots pour en retrouver l'essence et les signes, d'autant que nous sommes avec Jean-Charles Bassène de l'atelier Super Samplon. Donc évidemment, on en retrouve l'essence. Et Gabi Benzen, j'ai envie de dire... Gabi Bazin, qui tous deux enflamment l'imagination avec leurs trouvailles typographiques. Enflammés, embrasés, oui, on peut le dire, il va se passer des choses à Jaujac ce week-end, si j'en crois l'anagramme suivante, qui ne se trompe jamais, comme la météo. Alors vous le savez, l'anagramme, c'est un mot ou une phrase que l'on obtient en permutant les lettres d'un mot ou d'une phrase. Et la phrase « j'allais jouer avec les mots » donne « SOS live mortel à Jaujac ». Oui, des lives, des rencontres vivantes, quoi, avec tous les intervenants du monde du livre jeunesse, auteurs, illustrateurs, éditeurs, libraires, bibliothèques, associations et autres, qui seront présents ce week-end à Jaujac. Et dès maintenant, dans cette onde curieuse, puisque je l'ai déjà dit, nous avons deux invités, donc, allez, on le dit sérieusement, Jean-Charles Bassène, qui est graphiste et typographe installé à Jaujac, au sein de l'atelier Super Samplon. Bonjour Jean-Charles.
Bonjour.
Et merci d'être là. Avec nous également Gabi Bazin, qui est multigraphiste, je ne sais que dire, sérigraphe, risographe, lithographe, sérigraphe, illustratrice, autrice, typographe.
Bonjour.
Bonjour Gabi, merci d'être là. Et Claire de la librairie Le Tiers-Temps, qui est également avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez tous les trois nous parler donc de ce festival, enfin de ce salon du livre jeunesse à Jaujac qui aura lieu ce week-end. Mais d'abord, on fait un petit tour par l'agenda. Avec Marion. Bonjour Marion.
Bonjour. On commence tout de suite avec un spectacle de théâtre. Donc après avoir fait étape jeudi dernier au cinéma Le Navire, la seconde édition du festival Chapeau Melon et Bottes de Cuir, initié par l'association Théâtre en cours, vous donne rendez-vous du coup ce soir à 19h au lycée Marcel Gimond avec à l'affiche 13h13 la minute d'après. Le théâtre et le rap se mélangeront pour 45 minutes de voyage dans l'univers de Nozil Bey et Automate. Une pièce qui passe allègrement là aussi du rire aux larmes bercées par la complicité des deux personnages. Ensuite, au Teil, demain, donc on a le vernissage de l'exposition de Robin Pierre Stiger, qui est photographe et qui se tiendra donc à 18h au Tilt au Teil, au 4 rue Colette Bonzo.
Pas facile à dire, au
ouais.
Tilt au Teil.
Ouais. Son exposition se nomme Danseuses échappées, et ça regroupe une série de photos d'une quinzaine de danseuses, professionnelles ou non, de 11 à 40 ans. Et elles sont échappées, selon lui, car elles évoluent en dehors du cadre du studio ou de la scène. Et demain, les mots dansent aussi, car à 18h30, à la médiathèque de Cruas, le duo Les Gaspard, à la contrebasse et à l'accordéon, vous propose un concert gratuit intitulé « Des mots dans l'air », suivi d'un échange avec les musiciens. Toujours à 19h demain à Vaisseau, c'est la dernière escale du Vaisseau-mer et ça commence avec le spectacle « Par la peau » de la compagnie Solsic. Un spectacle de danse, de théâtre sur le toucher, drôle, sensible et acrobatique à voir dès 8 ans. Et à 21h, place au bal avec les Tantans Flingueurs, un concentré d'énergie brésilienne entre samba et foro. Donc pensez par contre à consulter le site vaisseaumer.com en cas de pluie.
Mais Sylvain, Monsieur Météo va nous dire, il n'y a pas de pluie, non, pour ce week-end?
Non, c'est pas prévu.
Alors, sauf les sommets. Après être allé, bien sûr, au salon du livre jeunesse à Jaujac.
Vous pouvez aussi aller à Entraigues, si jamais, à 20h, donc demain, pour un récital exceptionnel avec à la salle Christine Sèvres. On retrouve la pianiste Svetlana Navazardian, je l'ai bien prononcé, ça va, tout va bien, qui est une figure majeure de la musique arménienne et qui interprétera des œuvres de Chopin, Komita ou encore Brahms. Donc une soirée pour les amoureux de la virtuosité et de l'émotion. Sophie peut en témoigner.
Oui, oui, c'est incroyable. On n'a pas l'impression que ce sont ses mains qui jouent. On entend la musique, on voit ses mains, tout ça est complètement décorrélé. C'est absolument incroyable. Ouais. Allez la voir, l'entendre.
Demain 20h à Entraigues-sur-Volane. De l'autre côté de l'Ardèche, plutôt du côté de Gros-Pierre, demain à 20h au Mar Ruby, le trio 73 vous embarque dans l'univers du jazz avec un répertoire riche en improvisation. On retrouve des influences Bill Evans, Brad Meldo et Ahmad Jamal. Et on continue donc demain à Mercuée pour l'ouverture du festival des gens tout seuls. On retrouvera Christian Olivier, le chanteur emblématique des Têtes Raides, qui montera sur scène au bistrot associatif Le Pas de Côté, donc un concert en plein air, intense et engagé. Et pour finir avec les mots, demain à 20h à Saint-Cernin, le professeur de lettres, écrivain et poète Pierre Présumé vous invite à écouter et réfléchir sur les fables. Donc sa conférence, qui s'intitule « Les sagesses de La Fontaine », vous invite à réfléchir sur la justice et la force, le racisme, la guerre continuelle avec les traités conclus avec le grand méchant loup et la liberté. La Fontaine voit les défauts mais ne les corrige pas, et Pierre Présumé va vous donner envie de replonger dans les fables des proies et des prédateurs, mais c'est aussi notre monde contemporain. Ça se passe donc demain à 20h au Centre culturel de Saint-Cernin.
Merci beaucoup Marion, il était question de poésie, on en vient au niveau zéro, poésie zéro.
Ni de mental en faire fâcher, tu peux t'inscrire, mais pour gagner, tu sais, c'est même pas la peine d'y penser, même pas la peine de dépenser tous tes milliers de billets en milliers de billets de concerts, pas la peine, c'est déjà joué. Si tu veux gagner, rude boy, pas de malentendu. Il faut progresser, il faut s'entraîner dans la rue, s'entraîner sur des skins, s'entraîner sur des fachos. C'est comme ça que l'on gagne la Coupe du Monde de Pogo. 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 Coupe du Monde de Pogo. Champion, tu vas devoir bouger tes jambes et tes bras pour casser des dents, casser des côtes, casser des tibias. Tu vas t'équiper comme un cap avec un casque et un bâton, avec un casque et un bâton, un flingue et des pompes en béton. Car le pogo roule, c'est pas un concours de génie. Ouais, le pogo roule, c'est mieux qu'une philosophie. Ils vont m'attraquer tous les skins, les matraquer tous les blaireaux. C'est comme ça que l'on gagne la Coupe du Monde de Pogo. Coupe du Monde de Pogo. Coupe du Monde de Pogo. La Coupe du Monde de Pogo. Coupe du Monde de Pogo.
Oh, c'est vivifiant. Merci Sylvain. Alors on était sur Poésie Zéro et tu as proposé la Coupe du Monde de Pogo puisque Poésie Zéro sera au Crash Musette. Au Crash Musette, et d'ailleurs Fréquencette également, on sera au Crash Musette ce week-end les 24 et 25 à la Voulte. C'est ça, merci. Surtout les enfants, ne faites pas ça. Coupe du Monde de Pogo. Pourquoi d'ailleurs ce titre? Mais tu malmènes les enfants? Tu les incites à faire...
Mais pourquoi les enfants tout de suite?
Mais parce qu'on parle du livre, du salon, du livre jeunesse de Chauchac, des 23 et 24, c'est-à-dire vendredi et samedi, avec nos invités qui sont là, Claire de la librairie du Tiers-Temps, Jean-Charles Bassène du Super Samplon, et typographe, et Gabi Bazin, qui est typographe et autre graphe. Remercie et rebonjour à tous les trois d'être parmi nous. Donc on parle de ce salon. D'abord, qui est derrière ce salon du livre jeunesse qui va avoir lieu ce week-end?
Alors le salon, ça fait 4 ans qu'il a été créé par David Matigneux, donc qui aujourd'hui a pris du retrait par rapport à l'association. Le projet a été repris par la suite par une équipe de bénévoles depuis 2 ans. une vaste équipe. Je crois qu'on est à peu près. Enfin, il y a un noyau dur qui se donne rendez-vous tout au long de l'année pour créer l'événement. Et après, je crois qu'au moment du salon, on est à peu près une cinquantaine de bénévoles. Donc, il y a des gens de tous les horizons. C'est vraiment une équipe très locale aussi, de tous les âges. Des actifs, des retraités, mais en tout cas, c'est. Et qui travaillent tous main dans la main autour d'une programmation qui est articulée avec Claire et une équipe.
Avec Claire du Tiers-Temps.
Voilà, donc. Claire de la librairie du Tiers-Temps, pour définir un thème et après pour pouvoir commencer à animer, créer des ateliers en parallèle et des invités qui vont se joindre au moment du festival.
Alors, tu as parlé du thème. Cette année, le thème, c'est jouer. Pourquoi ? Est-ce que ça a été. On va dire orienté par l'actualité éditoriale, ou est-ce que c'est plus profond, Claire ?
Alors ni l'un ni l'autre, c'était en fait choisir un thème, c'est un petit peu se céder à fabriquer une programmation par association d'idées. Après jouer, ça s'est un peu imposé parce que la littérature jeunesse doit être ludique, la lecture doit être ludique, enfin c'est quelque chose qu'on a à cœur de partager. Voilà, et puis peut-être parce que l'époque est morose et qu'on avait envie de gaieté.
Tu parles de, puisque là effectivement c'est le cœur du salon, la littérature jeunesse, mais à partir de quel moment d'ailleurs la littérature n'est plus ludique ? À partir de quand ? Parce que lire, c'est toujours un jeu, finalement, un jeu de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, ou un jeu de jouer avec les mots, ou de...
Oui, alors...
Elle l'est plus ?
Par contre...
Je pose la question à tout le monde, là.
Je pense que parfois, la lecture, quand elle est présentée dans le cadre scolaire, par exemple, ça devient plus une corvée pour certains enfants parce que y a des difficultés d'apprentissage, ou parce que c'est présenté de façon justement très très peu ludique. Et nous, on est plutôt du côté de la lecture plaisir, de la lecture comme émancipation, comme... Donc oui, derrière, il y a un petit propos un petit peu sur nos valeurs et sur ce qu'on a envie de défendre.
Jean-Charles, tu voulais ajouter quelque chose ?
Je pense que c'est un peu pareil aussi par le biais des ateliers qu'on convoque pour le salon. C'est aussi de se tourner vers des techniques, vers des manières de jouer avec les mots, de les utiliser, qui prennent aussi un peu le contre-pied de ce qu'on fait dans le milieu scolaire. Et donc d'utiliser des techniques un petit peu plus ancestrales, des fois un peu archaïques, mais qui vont pour les jeunes ou pour les enfants leur paraître étrangères la plupart du temps, mais du coup ça fait du bien aussi de prendre le temps et de prendre de la distance avec cette manière dont ils ont peut-être dans le milieu scolaire d'utiliser ces mots.
On va y revenir parce qu'on va parler de ce que vous allez faire et de ce que vous venez de faire d'ailleurs tous les deux, Gabi et Jean-Charles, puisque vous venez du collège Roca, vous avez animé un atelier typo avec des élèves de 6e.
C'est ça.
C'est ça. Mais d'abord, ça fait la transition, ce n'est pas qu'un salon, ou plutôt le salon, c'est la partie émergée, c'est la bosse du chameau, c'est la partie émergée, visible, puisque vous mettez en place également des ateliers. Alors, il y aura bien sûr des ateliers sur le salon, mais vous en faites également en amont avec des classes. Vous nous expliquez un petit peu ?
Du coup, oui, moi j'ai la chance cette année de me déplacer avec Gabi, qui est invitée cette année, par rapport à son travail d'illustration, d'écriture sur ses trois derniers livres qu'elle a produits, notamment Le Typographe, La Lithographe et La Taille Doucière.
Bravo.
Et je ne les ai pas dit dans le bon ordre. Mais en tout cas, voilà, ce qui a été chouette cette année, c'est que je puisse me profiter de sa venue pour venir avec du matériel, aller... montrer tout ça aux collégiens de Roca, et puis produire, imaginer ensemble un atelier à la fois illustration et impression. C'est vraiment deux temps.
C'est moi qui ai de la chance que tu viennes avec tout ton matériel, et c'est les élèves aussi qui ont de la chance de profiter de tout ce matériel et cette expertise qui est très rare, en fait. C'est très rare d'avoir l'occasion de toucher des caractères en bois, d'imprimer avec. Et donc là, on a créé avec Jean-Charles un atelier inédit. En tout cas, je lui ai proposé un atelier que j'ai inventé pour l'occasion et on a échangé en amont de notre rencontre pour préparer tout ça avec la professeure documentaliste aussi du Collège Rocca. Et c'est un atelier autour des outils qu'on leur a proposé ce matin. Et ils ont inventé des outils extraordinaires comme des taille-fraises, qu'est-ce qu'on a eu ?
Des tire-clous,
des crayons, couteaux, des tourne-patates, en mélangeant des noms d'outils qui existent déjà. Et donc avec moi, ils les ont illustrés, et avec Jean-Jacques, donc on avait double force pour faire tout ça, on a uni nos forces. Donc illustration avec moi et typographie avec Jean-Jacques, où ils ont composé...
Jean-Charles.
Joe et Jack. Ouais. Avec Jean-Charles, ils ont composé donc les noms de leurs outils qu'ils ont imprimés avec ta presse de Bernie et Peignot.
Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que bah, souvent pour les jeunes, voilà, quand on parle de lettres ou typographie, bon, on pense tout de suite à l'ordinateur, à cette manière commune aujourd'hui d'utiliser le texte. Mais là, les lettres qu'on utilise, c'est vraiment des objets. C'est des morceaux de bois, ou alors là, on n'en avait pas ce matin, mais oui, on a des lettres en plomb. Donc c'est vraiment l'objet matériel de la lettre, avec ses lacunes, ses usures du temps, parce que c'est des lettres, par exemple, les lettres qu'on utilise en bois, elles datent du début du siècle. Et donc du coup, elles ont été patinées par le temps. Là, on a fait le test ce matin. Il y a des lettres qui n'ont pas la bonne hauteur, donc on règle tout ça. On met des petites cales. Enfin, c'est un petit peu un travail d'orfèvrerie, mais à moindre mesure. Mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant. C'est surtout qu'ils puissent manipuler même les espaces, l'espace vide qu'il y a entre les mots. C'est un bloc. C'est un bloc d'aluminium ou de plomb qui est physique.
Ouais, c'est ça qui est fascinant dans la typo, c'est que tout a une existence matérielle, et ça on n'a plus du tout l'habitude, et eux encore moins je pense, mais de manipuler aussi des objets qui ont une centaine d'années quand même, ça c'est pas anodin, qui ont vraiment une histoire, et puis y a cette dimension ludique, c'est comme de jouer au cube en fait, c'est comme un jeu de cube où chaque cube porterait une lettre, et on les organise, on les fixe, on les enduit d'encre, et on les imprime.
Avec effectivement une matérialité, et tu le disais aussi un petit peu, Jean-Charles, cette notion de temps, ça prend du temps, c'est pas instantané, et donc il y a quelque chose résiste.
Ouais, du coup, on n'est pas. Il n'y a pas du tout cette instantanéité du tirage qui sort net, sec. Là, ça n'existe pas. Il faut faire des réglages en fonction du grammage du papier, en fonction justement des lettres qui vont, comme je le disais, avoir des fois des disparités entre elles. Et du coup, on est obligé de compenser tout ça, de faire des tirages de tests. Et après, une fois qu'on a réglé le calage vraiment de ces caractères mobiles, et ben, du coup, là, on utilise les bonnes feuilles. Voilà, c'est celle qu'on veut garder pour relier, pour produire l'édition finale. Et là, on peut vraiment prendre un peu plus son temps. Mais en tout cas, c'est vrai que même le séchage de l'encre prend un peu de temps. C'est pas du tout instantané, quoi. Ouais.
Et quelles ont été les réactions de ces collégiens, donc de 6e du Collège Rocca?
J'ai l'impression qu'ils étaient très curieux quand ils sont rentrés, qu'ils ont vu les lettres dans la casse, dans leur tiroir. Ils sont très curieux, toujours. Ils se demandent qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Mais là, ils avaient fait tout un travail de préparation avec leur professeur documentaliste, et donc ils avaient lu un de mes livres qui s'appelle Le typographe, où le personnage en question, ce typographe de métier, emmène les lecteurs à la découverte de son métier, de l'histoire de l'imprimerie et de la typographie. Donc ils n'étaient pas totalement étrangers quand même à cette technique-là, ils la connaissaient un petit peu par le livre. Mais je pense qu'il y a toujours une découverte. Toi, c'est plutôt ça que t'as vu, toi.
Ouais, en tout cas, on avait vu qu'ils ont été, ils se sont documentés en amont parce qu'il y avait déjà des réponses qu'ils avaient d'avance. Par exemple, le fait de composer les lettres en miroir pour imprimer, il faut forcément utiliser les lettres à l'envers pour que le résultat final imprimé soit lui dans le sens de la lecture. Donc, ça demande une petite mécanique au cerveau de lire le mot à l'envers. Et j'ai pu voir que certains jeunes là, avaient déjà cette mécanique, ils l'avaient vue, sans même l'éprouver physiquement, mais en tout cas, ils pouvaient, quelquefois, des petites erreurs, mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment un champ d'intervention comme ça qui a ses spécificités qui ont complètement disparu aujourd'hui, quoi. Là, on tape sur le clavier et tout est dans le bon sens de lecture. Ouais.
Et qu'est-ce qui vous fascine et vous intéresse tous les deux qui pratiquez, donc Jean-Charles la typographie et Gabi, alors pas que la typographie, d'ailleurs des noms mais que j'ignorais, la risographie, et la lithographie aussi, la sérigraphie.
Ouais.
Qu'est-ce qui te pousse à utiliser ces moyens-là?
C'est le rapport à l'image que ça crée. Il y a plein de dimensions différentes qui me plaisent, mais déjà il y a la surprise, qui est très présente en atelier aussi, dès qu'on transmet ces techniques-là, ces pratiques-là. Le moment magique, c'est quand on soulève le tirage et qu'on découvre le résultat, qui peut être une bonne surprise ou une mauvaise surprise. Et c'est très lié au jeu aussi, cette histoire-là. Donc moi, dans tout mon travail d'illustration aussi, même quand je travaille pas directement avec une technique d'estampe traditionnelle, j'essaye de laisser une grande place à cette question de la surprise. Et donc c'est une façon de faire des images qui est parfois très éloignée des façons plus évidentes qui viennent à l'esprit, comme avec des crayons ou de la peinture. C'est une façon qui passe par des chemins détournés pour arriver à des résultats un peu différents, inattendus. Et il y a aussi la dimension multiple des images qui fait qu'on peut les partager. Donc contrairement à un dessin original, une gouache, là on peut faire plusieurs tirages qui peuvent être identiques ou assez différents. Et ensuite on peut les mettre en partage, on peut les offrir, on peut les diffuser. Et ça c'est quelque chose qui me plaît énormément.
Et toi Jean-Charles ?
Du coup, moi, la typographie, elle est venue dans le cadre de mes formations aux Beaux-Arts, où voilà, il y avait un atelier de typographie qui a malheureusement un peu périclité avec le temps, mais comme dans beaucoup d'écoles d'art. Et du coup, bon, mon métier de graphiste aujourd'hui m'amène à manipuler des lettres avec des outils informatiques, des logiciels de PAO. Donc moi, la lettre, elle fait partie de mon vocabulaire. Donc quand on me commande, que ce soit mise en page d'un livre ou d'une affiche ou d'un logo, on compose des lettres et ça, on est obligé forcément de tirer parti de certaines contraintes. Le nom d'un client pour en faire un logo, c'est un encombrement, c'est un nombre de signes. Et du coup, pour faire une affiche, c'est la même manière. Il faut donner de la hiérarchie, donner du volume à l'information, faire visuel aussi avec les lettres. Et donc c'est ça qui m'intéresse. Et après, il y a plein de paramètres, le dessin de caractère proprement dit. Que ça soit actuel, mais aussi justement pour des techniques qui étaient utilisées avant, notamment avec des caractères en plomb. Tout ça dans l'histoire de la typographie, c'est un vivier, notamment en France, on a une mine d'or. Et donc c'est vrai que Et après, le fait de jongler entre les deux, entre l'ordinateur et le côté print artisanal, letterpress, ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est que chaque univers a... c'est vraiment un grand écart entre les deux, et donc ce que je peux faire sur ordinateur avec des partenaires où justement il y a cette notion de produire dans des contraintes avec des quantités qui font qu'on est obligé de travailler avec des prestataires et entre guillemets de la grosse impression. Là, le côté artisanal, c'est d'aller vers un peu de tirage, prendre son temps et d'avoir un résultat, lui, qui peut être aussi un peu, qui a une part d'accident.
C'est ce que tu disais, c'est la surprise.
Ouais, l'accident.
Ouais, la surprise ou l'accident. C'est un peu comme du vin nature, quoi.
Exactement.
On
ne
sait pas très bien ce qu'on va trouver. Et ça brouille aussi la frontière entre l'écriture et le dessin. D'ailleurs, Gabi, tu as produit un livre qui s'appelle « Écrire, c'est dessiner ».
Oui.
Où justement, on renoue avec ces gestes. On parlait des gestes tout à l'heure. Il ne s'agit plus de taper, même si déjà taper sur un clavier. Déjà taper sur un clavier, c'est un geste. Mais là, c'est tout le corps qui est engagé. Et en termes de... Ça renoue un peu avec l'origine de l'alphabet, avec l'origine des lettres, avec l'origine des mots qui étaient au départ des dessins, des pictogrammes.
Oui, ce qu'on raconte souvent, par exemple, c'est l'histoire du A, de la lettre A, qui était à l'origine une tête de bœuf tournée sur le côté, et puis avec le temps, avec les siècles, qui s'est retournée pour donner notre A actuel. Et oui, chacune des 26 lettres de notre alphabet a une existence comme ça. C'est devenu un signe, mais au départ, c'était une image, ouais. Oui, et ça, c'est fascinant. Et ce livre, Écrire, c'est dessiner, il parle plutôt du plaisir d'écrire et du plaisir du geste. Et je peux raconter un peu son histoire. C'est un livre que j'ai fait pendant mes études, où je suis allée rendre visite à une classe d'enfants pour voir comment ils apprenaient à écrire. Et j'ai vu que la difficulté venait beaucoup de l'écriture cursive, qui est très codée, très contrainte. Souvent, ils disaient qu'ils avaient mal au poignet. Et donc j'ai eu envie de proposer des façons d'écrire ou d'aller vers l'écriture qui passent par le dessin. Et donc ce livre-là, il parle des boucles, des cercles, des traits, de tous les gestes qu'on fait pour écrire, qui sont aussi les gestes qu'on fait pour dessiner. Et donc c'est un livre-jeu, on revient à cette idée de jeu, dans le sens où on peut prendre une feuille de rhodoïde, une feuille transparente qui est dans le livre, choisir n'importe quelle planche du livre, c'est donc des planches de gestes, la poser dessus avec un feutre effaçable, s'entraîner à faire des gestes plus ou moins simples ou complexes. Donc c'est un livre pour des âges très différents. Et à partir de ce livre-là, donc j'ai fait une petite exposition atelier qui sera visible et praticable à Jaujac.
Et oui, puisque revenons donc à Jaujac, il va se passer plein de choses. Donc évidemment, tous les deux, vous serez là, vous allez animer des ateliers. Il y aura une exposition. Je te laisse, Claire, reprendre le flambeau pour nous redire un petit peu quels sont les ateliers qui vont être proposés et quels sont les auteurs, illustrateurs et éditeurs qui seront aussi présents.
Oui, alors le salon, pour rappel, ça se passe en gros sur 3 jours. Donc aujourd'hui, les invités, les auteurs, illustrateurs vont rencontrer des élèves dans leur classe, donc comme ce que Gabi et Jean-Charles ont fait ce matin. Demain, ouverture du salon sur la place de Jaujac. Et là, ce sont des classes qui viennent à nouveau faire des ateliers, rencontrer des auteurs et donc profiter aussi des autres propositions. Donc il y a l'atelier de Super Samplon de Jean-Charles et Julie Tierlik. Donc ça, peut-être tu pourras nous le décrire. Il y a l'exposition de Gabi Bazin. Il y a des jeux de pistes, des jeux proposés par Déambule. Il y a des lectures, enfin voilà. Et samedi, donc c'est la journée grand public où on va retrouver toutes ces propositions. Donc c'est de 9h à 18h sur la place de Jaujac. Je vais quand même, oui, peut-être dire au moins les noms des auteurs invités.
Bien sûr.
Tous nos invités. Donc nous avons Gabi Bazin, Xavier Broncard, Jean-Baptiste Drouot, Sébastien Joignez, Juliette Lagrange, Fanny Pajot, Caroline Pellissier et Anne Valetta. Donc on a mixé un petit peu des auteurs locaux et des auteurs venus d'autres horizons, puisque Xavier Broncard, Sébastien Joignez et Anne Valetta sont ardéchois. Et il y a également deux maisons d'édition, Alice Édition et les éditions théâtrales, parce que pour nous, jouer, c'était aussi ce sens-là, c'était jouer une pièce de théâtre, jouer un personnage, et donc on a fait appel à cette maison d'édition qui est une des maisons d'édition qui a une grande collection jeunesse de textes contemporains, de textes d'auteurs contemporains. Parce que le théâtre, ça peut se lire aussi, ça peut se jouer, ça peut se partager. Et voilà, donc le lien, c'est aussi que Sébastien Joignez a publié des ouvrages chez eux. Voilà. Et donc les éditeurs seront présents et pourront parler de leur ligne éditoriale, de leur travail, de leurs objectifs.
Fascinant, ouais.
Voilà.
Et juste un mot sur la remise des prix Bosse de Chameau. Qu'est-ce que c'est ?
Ah oui, alors Bosse de Chameau, c'est un dispositif qui se passe même en amont du salon, puisque depuis le mois de janvier, en fait, il y a des caisses de livres qui ont circulé dans les écoles ardéchoises avec la consigne donnée aux classes, aux enfants, de choisir leur livre préféré dans une sélection de 5 titres pour chaque cycle, cycle 1, cycle 2, cycle 3. Donc je crois, une quinzaine d'écoles concernées et donc une vingtaine de classes qui ont étudié, lu et apprécié les livres des invités. Donc ça, en fait, l'objectif, c'est pas tellement de créer un prix, de faire une compétition, mais c'est plutôt de créer déjà quelque chose autour du salon une émulation dans les classes. D'ailleurs, je voudrais préciser quelque chose, parce que tout à l'heure, on a parlé du côté scolaire avec un petit peu durement, et je voulais dire qu'on a quand même beaucoup d'enseignants qui sont des vrais partenaires, oui. Tous ceux qui s'inscrivent dans ce dispositif, tous ceux qui viennent au salon et qui préparent les ateliers avec les enfants, enfin voilà, on est plus partenaires qu'opposés.
Bien sûr, mais c'est très bien, effectivement tu parlais de lecture plaisir, mais je pense qu'il y a énormément d'enseignants qui maintenant transmettent cette lecture plaisir, ouais. Et oui. Trouvent, et
heureusement,
voilà. Et ouais. S'inscrivent, participent au salon et font découvrir aux enfants tout l'univers du livre. Et merci aux enseignants aussi. Voilà.
Merci aux enseignants, Et merci à vous. C'est la fin de cette émission. Allez retrouver donc Gaby Bazin, Jean-Charles Bassène et tous les autres invités dont tu as parlé, Claire, ce week-end et notamment samedi à Jaugeac. C'est où? À quelle salle de Jaugeac?
C'est place du Champ de Mars.
Place du Champ de Mars, en plein milieu, vous ne pouvez pas le louper. Merci beaucoup à vous trois d'être venus ici. Merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Merci Marion pour la préparation de cette émission et pour l'agenda. Et merci à vous, auditrices et auditeurs. Restez à l'écoute, puisqu'à 15h, vous retrouvez le Telex, c'est-à-dire vos annonces, vos événements. À 16h15, Merveille d'Ardèche, avec une petite randonnée découverte de la Châtaigneraie. À 17h, la rediffusion de cette onde curieuse. Et à 18h, la collective, la rediff. Quant à nous, on se retrouve lundi.
Oui, pour parler du festival Medievals.
Génial. Merci. Ciao.